VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. En République démocratique du Congo, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, a exhorté le procureur de la Cour constitutionnelle mardi à enquêter sur le patrimoine de l'ex-président Joseph Kabila et des anciens ministres. La même demande a été adressée au procureur de la Cour de cassation, a indiqué le président de la CAJ, Georges Kapiamba, ce mercredi à l'AFP. La loi congolaise impose aux chefs de l'État et aux membres du gouvernement de déposer au greffe de la Cour constitutionnelle leur déclaration écrite de patrimoine familial au début et à la fin de leur mandat respectif. Et d'après la CAJ, plusieurs des responsables visés n'ont pas respecté cette consigne. L'ex-président Joseph Kabila a dirigé la RDC du 26 janvier 2001 au 24 janvier 2019. A noter que lundi, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, investi le 6 septembre, a déposé la déclaration écrite de son patrimoine au greffe de la Cour constitutionnelle. M. Ilunga a rappelé aux membres du gouvernement l'obligation de déclarer leurs avoirs au plus tard le 6 octobre 2019. Au Cameroun, troisième jour du grand dialogue national à Yaoundé visant à trouver des solutions pour mettre fin au conflit dans les deux provinces du nord-ouest et du sud-ouest anglophone. Plusieurs personnalités politiques ont profité de la réunion pour aborder des questions sur la forme de l'État. Un sujet exclu des débats. Éric Panirakiza.
John Frundi, leader du SDF, principal parti d'opposition, a exigé un retour au fédéralisme, comme c'était le cas avant son abolition. Si ses propositions sont ignorées, le SDF menace de se retirer du dialogue. Akere Muna, anglophone opposant et avocat de renom, a claqué la porte, dénonçant le refus d'ouvrir un débat sur la forme de l'État. Une autre opposante, Alice Sadio, ne participe plus aux travaux, dénonçant un grand monologue hypocrite. En convoquant ce dialogue, le président Paul Biya avait exclu toute discussion sur le fédéralisme, la sécession et son statut de président. Mais lundi à l'ouverture, une figure du RDPC, le parti au pouvoir, Ibrahim Mbombo Njoya, sultan de Fumban, a quand même posé la question de l'alternance au sommet de l'État. Selon lui, le seul remède pour guérir le mal est la limitation des mandats présidentiels à deux. Le Premier ministre, Joseph Dion Nguté, a dû lui faire un rappel à l'ordre. Le dialogue national s'est poursuivi hier à huis clos dans des travaux en commission.
Afrique du Sud, visite d'État du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, demain jeudi dans le pays, au programme raffermir les liens bilatéraux après une vague meurtrière de violences xénophobes qui a secoué l'Afrique du Sud début septembre. Au moins 10 personnes ont été tuées, dont 2 ressortissants étrangers, lors de ces troubles qui ont débuté à Pretoria et se sont propagés jusqu'à Johannesburg, la grande métropole sud-africaine. Les attaques qui ont pris pour cible des entreprises appartenant à des étrangers ont duré plusieurs jours et déclenché des réactions d'indignation en Afrique, notamment au Nigeria. En riposte, des entreprises sud-africaines installées au Nigeria ont fait l'objet d'attaques et de boycotts. Le président Muhammadu Buhari et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa tenteront d'élaborer des réponses aux défis auxquels ils font face. Le combat contre les djihadistes dans le Sahel maintenant au Nigeria. Un officier de l'armée nigériane et les chefs de la milice anti-djihadiste locale de la ville de Goubio dans le nord-est du pays rejettent les allégations de l'ISWAP, la faction de Boko Haram ayant fait allégeance au groupe État islamique, selon lesquels ces militants ont tué ou blessé 18 militaires nigériens lors d'une incursion dans la localité dimanche dernier. Goubio a été attaqué par des combattants de l'ISWAP à bord de 8 pick-up équipés de mitrailleuses. Et la milice locale reconnaît avoir perdu 5 de ses membres tués au cours des combats. Et puis au Mali, au moins 25 soldats des FAMA, les forces armées maliennes, ont été tués dans des combats intenses lundi et mardi pour le contrôle de 2 camps militaires attaqués dans le centre du pays par les djihadistes. Les assaillants ont eux-mêmes perdu 15 hommes, a indiqué le gouvernement malien. Les précisions de Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Suite aux doubles attaques de Mondoro et Boulkessi le lundi dernier, hier l'armée malienne a livré une bataille pour reprendre au centre des positions tombées aux mains des présumés djihadistes. En effet, c'est un bataillon de l'armée malienne sous le commandement de la force conjointe du G5 Sahel qui était sous contrôle des terroristes. Dans les rangs des FAMA, le bilan provisoire fait état de 25 morts, 4 blessés évacués par aéronef des FAMA sur Sévaré, une soixantaine de portées disparues et de lourdes pertes en matériel. L'identification se poursuivait car il s'agissait des victimes des deux jours de combat. Selon le gouvernement malien, c'est après un déploiement des forces spéciales maliennes le lundi dernier dans la zone de combat, c'est-à-dire Boulkessi et Mondoro, que les FAMA, malgré les tirs de harcèlement des terroristes, ont pu récupérer le camp de Boulkessi hier soir. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest toujours, en Côte d'Ivoire, l'accès aux soins de santé reste un défi majeur. Le pays compte un seul centre d'ophtalmologie pédiatrique inauguré à Abidjan en février. Ailleurs, comme par exemple à Bouaké, dans le centre du pays, les habitants affirment que c'est très difficile d'avoir des soins oculaires pour les enfants. Reportage de notre correspondant sur place, Siriki Baro.
La prise en charge des enfants souffrant de maladies de vue reste difficile dans le reste du pays. C'est le cas de Bouaké, deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire. Personnel médical en nombre insuffisant, manque de matériel, autant de difficultés dans la prise en charge de ces enfants. Service d'ophtalmologie de l'hôpital Saint-Camille. La salle d'attente grouille de patients. Dans son bureau, Dr Diakité Seydou est en pleine consultation. Parmi ses patients, on y compte des enfants comme Allegra Marie-Thérèse. Âgée de 13 ans, cette fillette a les yeux tout rouges.
Ça me fait mal et puis la vue au soleil et puis à l'ombre n'est pas trop...
Les enfants que reçoit Dr Diakité Seydou présentent divers types de maladies oculaires.
Les consultations pour les enfants en ophtalmo, c'est en général la conjonctivite, les maladies infectieuses, inflammatoires, et puis les amyotrophies, les poids de lunettes, et puis il y a les traumatismes chez les enfants, les cataractes congénitales.
Il est impossible d'assurer une prise en charge médicale totale dans certains cas, selon Dr Diakité, en raison de la pauvreté du plateau technique à leur disposition.
Vraiment, il y a ce problème de plateau technique pour les diagnostics, les vues et les examens complémentaires. On est limité. Dans les tumeurs, on est obligé de débarquer sur la vision.
Pour la Côte d'Ivoire, qui dispose d'un seul centre d'ophtalmologie pédiatrique installé au centre universitaire hospitalier de Trècheville à Abidjan, le projet Child Eye Care vient pour apporter un début de solution pour une meilleure prise en charge des enfants qui présentent une déficience visuelle. C'est un projet piloté par la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Comelin Christine est la coordonnatrice de ce projet.
Aujourd'hui, avec la CBM, nous avons la construction à Bouaké, un plateau technique d'opération. Nous comptons prendre en charge 9000 enfants que nous allons opérer.
Selon l'OMS, ce sont près de 200 millions de personnes à l'échelle mondiale qui présentent une déficience de la vue avec une forte proportion d'enfants. Siri Kibaro, Bouaké, VOA, Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant. À Washington, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et l'avocat personnel du président Donald Trump, Rudy Giuliani, rejettent le calendrier que veulent leur imposer l'opposition démocrate au Congrès dans le cadre des efforts des élus démocrates à la Chambre des représentants pour lancer une procédure de destitution contre le chef de l'exécutif. Le point avec Abdourahmane Dia.
En réponse aux injonctions des parlementaires démocrates, le secrétaire d'État Mike Pompeo a jugé hier qu'il n'était pas faisable que le Congrès commence dès ce mercredi à entendre 5 diplomates sur la controverse concernant l'Ukraine. Le secrétaire d'État, qui lui-même est l'objet d'une injonction formelle de 3 commissions du Congrès, s'est exprimé dans une lettre virulente adressée à la Chambre des représentants. L'un des 5 diplomates, Kurt Volker, l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Ukraine, a démissionné vendredi. Selon Mike Pompeo, ces injonctions sont une tentative d'intimider, de harceler et de maltraiter les éminents professionnels du département d'État. sommet lui aussi de livrer des documents au Congrès. L'avocat personnel du président Rudy Giuliani a tweeté que l'injonction soulevait de graves questions en termes de légitimité et de constitutionnalité. Les démocrates reprochent à Donald Trump d'avoir demandé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur l'ancien vice-président et candidat à la nomination démocrate Joe Biden.
Pour sa part, le président Donald Trump a qualifié mardi soir la procédure de destitution qui le menace de coup d'État. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.